Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient une dernière fois sur le débat général annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une 72e session qui a permis aux pays francophones de procéder à un large tour d'horizon des défis et maux de la planète, notamment le terrorisme au Sahel, la situation dans le bassin du lac Tchad ou dans la Corne de l'Afrique, les questions de la souveraineté des États, mais aussi de la démocratie, de la défense des droits de l'homme, la francophonie et sans oublier la lutte contre le changement climatique. La lutte contre le terrorisme et la situation sécuritaire en Afrique ont été l'une des questions les plus abordées durant le débat général. Ainsi, Hissen Brahim Tah, ministre des Affaires étrangères du Tchad, a mis l'accent sur la mise en œuvre de la force commune des pays du G5 Sahel, qui, outre le Tchad, regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie.
Au Mali, comme dans le bassin du lac Tchad, mon pays est engagé et consent de lourds sacrifices humains, matériels et financiers. Cet engagement pris par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, avec le soutien de l'ensemble des Tchadiens, se poursuivra parce qu'il y va de la sécurité collective de la région et bien au-delà. Par conséquent, il nous faut fédérer nos moyens de riposte si nous voulons enrayer ce mal. Les appuis multiformes de la communauté internationale et singulièrement ceux de notre organisation nous sont indispensables. Nous reconnaissons la responsabilité principale de l'ONU dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Le Tchad soutient ces opérations de maintien de la paix dans le monde. Par conséquent, il n'est nullement question pour nous de nous substituer aux autres forces engagées au Mali. La force conjointe du G5 s'est vue une entité complémentaire dont l'objectif est de répondre de manière appropriée à la guerre asymétrique et non conventionnelle à laquelle s'adonnent les terroristes et les trafiquants de tout genre.
Outre la menace de Boko Haram, le Niger a lui aussi évoqué, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la situation volatile au nord du Mali en appelant à un véritable sursaut pour que la force du G5 Sahel soit opérationnelle au plus vite.
Au nord Mali, nous avons à résoudre deux questions. La première concerne la mise en œuvre des accords de paix d'Alger et la seconde concerne la lutte contre les groupes terroristes et les trafiquants. De notre point de vue, de ces deux questions, la plus décisive est celle de la lutte contre les groupes terroristes et les trafiquants. Tant que ces derniers n'auront pas été défaits, il sera difficile de mettre en application les accords de paix ou d'espérer la restauration de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire national. Notre objectif premier, notre cible, et donc l'éradication de ces groupes et la destruction de tous ces trafics devenus la source de leur financement. C'est pour cela que les pays membres du G5 Sahel ont décidé de mettre en place une force armée conjointe. Malgré l'engagement et la détermination des États membres du G5 Sahel, nous restons fortement préoccupés par la faible mobilisation de la communauté internationale pour rendre cette force opérationnelle. Le Niger est convaincu que cette force permettra d'imposer les conditions d'un rapport de force irréversible en faveur de la paix et de la stabilité au Mali et donc dans l'ensemble du Sahel.
Des défis régionaux du Sahel et du Mali qui vont de pair avec les préoccupations nationales, comme le souligne à notre micro le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry.
Il y a la nécessité de la réforme des Nations Unies. Il y a aussi les évolutions intérieures au niveau du Burkina sur les questions politiques qui doivent déboucher sur une vraie réconciliation nationale. Et puis, il y a également la question sous-régionale, mais qui est aussi nationale, c'est celle du terrorisme. On a voulu appeler les uns et les autres à aider l'Afrique de l'Ouest, à aider le G5 du Sahel, à aider le Burkina, à être en mesure de combattre le terrorisme, parce que c'est une situation difficile pour tout le monde. Et le combat du terrorisme est un combat de tout le monde. Et nous saluons les efforts qui ont été faits par les Européens, notamment l'Union Européenne, la France, et puis l'Allemagne qui est en train de suivre. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant.
Autre région africaine et hélas autre problème, la région des Grands Lacs avec la situation en République démocratique du Congo où le processus électoral prend du retard. Le président Joseph Kabila s'est voulu rassurant et a rappelé sa volonté de voir prochainement la mission des Nations Unies, la MONUSCO, achever son mandat.
J'affirme que le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. La Charte des Nations Unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées.
Autre pays de la région, le Burundi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Alain-Aimé Nyamitwe, qui a dénoncé la manipulation des mécanismes du Conseil des droits de l'homme par certains groupuscules après l'accusation lancée par la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur le Burundi, selon laquelle il existe des motifs raisonnables pour conclure que des responsables au plus haut niveau de l'État du Burundi ont perpétré des crimes contre l'humanité.
Sur le plan politique, notre pays réitère sa position maintes fois répétée et conforme à la Charte de l'ONU. Tous les États membres de l'ONU sont souverains et leur souveraineté est égale. Nous appelons à la retenue de certains États qui, encore au XXIe siècle, se croient en droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres États, surtout des pays en développement. Nous remercions le Conseil de sécurité qui, en ce qui concerne le Burundi, a, dans ses différentes résolutions et déclarations présidentielles, réaffirmé le respect de la souveraineté du Burundi. Nous ne le dirons jamais assez. Le Burundi estime que la non-ingérence des affaires intérieures d'autres États, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États constituent les piliers d'un système international équilibré et conforme aux prescrits de la Charte de l'ONU. Ces principes ne sont pas négociables. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Burundi est prêt à les défendre, quel qu'en soit le prix.
De la tribune de l'Assemblée, le Premier ministre de la Belgique, Charles Michel, a lui plaidé pour davantage de multilatéralisme et a appelé à une relation décomplexée, libérée des démons du passé, d'égal à égal, tournée vers l'avenir entre le continent africain et le continent européen.
Les institutions, nationales comme internationales, doivent garantir les libertés personnelles et la quête constante vers plus d'émancipation, vers plus de dignité pour chacun. Bien sûr, les souverainetés doivent être pleinement respectées, mais les souverainetés ne peuvent pas être des paravents, ni même des excuses pour tenter de légitimer exaction et asservissement. Il ne s'agit pas ici de faire des leçons de morale, ni de vouloir dicter de gré ou de force un modèle de démocratie clé sur porte. Il s'agit plutôt de convaincre. Il s'agit, grâce au dialogue constant et inlassable, de défendre sans aucune complaisance les valeurs universelles pour chaque être humain, d'où qu'il vienne et où qu'il aille. Jamais et nulle part, les ruptures diplomatiques n'ont fait progresser les valeurs universelles. Rompre des dialogues, c'est bien souvent un acte d'abandon lâche de ceux qui se battent dans leur pays pour plus de liberté.
Unique représentant francophone de la Corne de l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, a évoqué, lui, la situation au Soudan du Sud, au Yémen et surtout en Somalie.
Djibouti se félicite des développements politiques récents en Somalie et de la dynamique créée par l'élection du président Mohamed Abdoulaye Farmadjo en février de cette année et la formation du nouveau gouvernement. Nous saluons les nombreuses mesures encourageantes prises pour renforcer les relations avec les États membres de la Fédération et nous nous félicitons de la stratégie mise en place pour encourager des réformes fiscales et économiques visant à mobiliser des ressources endogènes. Nous soulignons cependant l'importance d'un soutien accru en faveur de la Somalie en mobilisant un financement adéquat en appui à son programme de développement. Nous demeurons préoccupés par le projet de réduction du financement à la MISOM, en dépit du consensus sur le succès enregistré par cette opération africaine de maintien de la paix. Il faut veiller à ce que les gains obtenus sur le plan de l'amélioration de la situation sécuritaire soient préservés.
Durant le débat, le président de Madagascar et Herry Martial Rajao Narimam Panina Rako Touari Manan, président en exercice de la francophonie, n'a pas tari d'éloges sur les vertus et valeurs de la langue commune à Sangor, Césaire et La Fontaine. Un hommage réitéré au micro d'ONU Info.
La francophonie est une grande plateforme, un grand espace de solidarité, de partage. Cela n'empêche pas effectivement que dans certains pays, il y a des replis identitaires, des replis sur le plan économique et social aussi. Mais je pense que le plus important, c'est prendre ces problèmes à bras le corps dans le cadre de cet grand espace de solidarité et pouvoir apporter déjà des réponses. Moi, je suis convaincu que la francophonie, par exemple, est vraiment une réponse à tous ces problèmes devenus mondiaux aujourd'hui. Quelle que soit la dimension de ces problèmes dans chaque pays, quelle que soit la manière avec laquelle un pays appréhende le problème, je crois qu'il y a une façon globale aussi d'appréhender ces problèmes, de partager ces problèmes et je pense de les résoudre. Je pense notamment aux problèmes de paix, d'insécurité, problèmes de la jeunesse. Donc tout cela, à mon avis, sont aujourd'hui très importants de pouvoir en débattre dans un espace fraternel.
Les petits États ont eux aussi pu se faire entendre, à l'instar de Monaco, qui par la voix du prince Albert II a plaidé pour la mobilisation de davantage d'efforts et de moyens en faveur de la lutte contre le changement climatique.
Mon engagement pour la planète en général et pour les océans en particulier est total et permanent. J'ai l'intime conviction que notre capacité à sauver l'océan d'un déclin proclamé nous permettra de sauver la planète. C'est pourquoi je salue la décision visionnaire prise par le secrétaire général de nommer un envoyé spécial pour l'océan. Cette nomination est emblématique des défis à relever et autres nécessaire pour rationaliser nos actions. Nul ne doute du dévouement et de l'engagement sans faille du président de la 71e session de l'Assemblée générale, M. Peter Thompson, que nous félicitons chaleureusement tant pour le travail accompli ces derniers mois que pour ses nouvelles responsabilités. Nous plaçons les plus grands espoirs dans sa capacité à fédérer le système onusien, la société civile, le secteur privé et académique pour que les cibles de l'ODD 14 soient atteintes. C'est donc avec une grande fierté que le Musée océanographique de Monaco, Fondation Prince Albert Ier, l'accueillera dans les locaux de la Maison des Océans à Paris.
Autre principauté européenne et francophone, l'Andorre, qui a elle aussi évoqué ses efforts pour assumer sa part de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement planétaire, comme l'a expliqué à notre micro son Premier ministre Anthony Marty Petit.
On a fait une priorité de la lutte contre le changement climatique et on a créé un ministère spécial sur l'environnement et on est en train de faire des politiques très sérieuses pour lutter contre le changement climatique. On a été des premiers à avoir le compromis avec notre coprince à l'époque, Hollande, de lutter contre le changement climatique. Et on est sur le point de diminuer l'effet de serre et donc les émissions de CO2 de 37% en 2030 et d'arriver à éliminer 50% en 2050. Je dis ça parce que c'est pas facile, c'est un moment de faire une signature sur un papier. C'est plus difficile de faire l'application des compromis qu'on a tenus. Et donc, sur le changement climatique, c'est des efforts qui doivent se faire conjointement. L'Andorre est un petit pays. Quoi qu'on fasse tous les efforts, si derrière pas une volonté de la communauté internationale, ça ne servira de rien. Voilà à quoi ça sert l'ONU un peu, que les efforts se fassent d'un point de vue multilatéral.
Laissons le mot de la fin à Yann Thomas, artiste observateur de l'ONU en résidence, mais aussi et surtout professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au CNRS, qui croque depuis plusieurs années les portraits des grands de ce monde, au siège de l'ONU à New York, mais aussi lors des grandes conférences des Nations Unies. Il jauge et évalue le débat général de la 72e Assemblée Générale en le comparant aux sessions précédentes.
Je l'ai trouvé, un peu plus tendu. C'est une tension constructive. Il y a une unanimité, évidemment, par rapport aux déclarations de Donald Trump. Et finalement, ça a l'air de créer des sursauts. Et j'ai écouté d'ailleurs Mugabe, qui est quand même très âgé. Ça avait l'air de lui redonner une forme d'énergie, même dans son discours, qui a emporté d'ailleurs l'Assemblée à un moment dans un rire très intense, parce qu'il a expliqué qu'il fallait faire attention au monstre. Et le monstre, alors c'était sous-entendu, ça pouvait être Donald Trump, mais c'était aussi le monstre que nous avons en nous, c'est-à-dire cette volonté toujours d'aller de l'avant, et peu importe finalement ce que l'on écrase ou ce que l'on dépasse, et c'est ça aussi le problème de l'humanité, c'est que nous avançons vers le progrès, et en même temps, à certains moments, des sacrifices sont nécessaires, et je pense qu'aujourd'hui, le sacrifice de la planète n'est plus du tout à l'ordre du jour, et que tout le monde a compris, en tout cas les États, qu'il fallait totalement arrêter cette gabegie industrielle. Donc, voyons maintenant si la société civile va suivre. Et ça m'a l'air quand même beaucoup plus engagé que ce qu'on a entendu l'an dernier, où on était un peu, justement, dans la fin de mandat d'Obama et dans une expectative.
Ainsi s'achève ce magazine Escale consacré au débat annuel de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, un débat pris sous le prisme francophone. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Christina Silvero, de Florence Westgard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et aussi sur les médias sociaux les magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.